cover. Écoutez, dans la paracha de Shmout, le Sikha de Beau, il y a au moins deux sujets fondamentaux. D'une part, c'est l'achèvement des 10 plaies d'Égypte, et en particulier la 10e plaie, la plaie de la mort des premiers-nés, qui va déclencher la décision du pharaon de laisser s'opérer la sortie d'Égypte. Et puis, il y a le début des mitzvot de la Torah, le début de la Torah comme livre des mitzvot. Alors, je pense prendre un temps suffisant pour traiter le deuxième sujet. Mais nous allons voir quand même un ou deux versets du début de la paracha. En particulier le premier verset, qui est un peu dans le prolongement de ce que nous avons étudié la semaine dernière. Une minute que ça, s'arrange. Alors, c'est pas trop chaud, ça. Est-ce que c'est suffisamment aéré parce que... Oui, ça va comme ça. Parce que c'est l'allergie qui... qui doit couper. Baruch atah Olam Shehakol Yahid. Bien. Le sujet principal, d'introduction, c'est le fait que ces événements dont la Torah, auxquels la Torah donne une importance si considérable, la sortie d'Égypte, puisque pratiquement toutes les mitzvot, en tout cas les mitzvot, je ne veux pas dire principales, elles sont toutes principales, les mitzvot générales, plus générales, sont toutes indexées, reliées au souvenir de la sortie d'Égypte. Il n'y a au fond de Torah que la Torah qui a été donnée à ceux qui sont sortis d'Égypte. Et c'est indiqué de manière très claire dans le premier verset des 10 commandements, « Je suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte, et voilà ma loi. » C'est un thème pour lui-même qui est extrêmement important. Je pense que dans le prochain cahier de Mayanot, ce sujet sera formé, se relié à ce sujet. Donc je vous ai déjà prophétisé que le prochain cahier de Mayanot va être vous arriver. Et... effectivement, depuis le début de l'histoire humaine, jusqu'à la sortie d'Égypte, on savait que le monde avait un créateur. Il y a une connaissance que, je ne veux pas dire que Dieu existe, ça c'est pas un problème propre à la Torah, ça c'est une évidence de l'identité hébraïque à qui la Torah a été donnée. Mais c'est un autre sujet. Mais on savait que le monde a un créateur, et avec toutes les implications importantes que cela représente, en particulier à travers la grande lignée des tzadikim de toutes les générations, depuis Adam Harishon jusqu'au temps de Moïse, tous les patriarches, entre guillemets, c'est comme ça qu'on les appelle quand même, Avot Haolam, c'est les pères d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob. Mais il y a des textes qui indiquent la dénomination de Avot, aussi aux grands tzadikim qu'il y a eu dans toutes les générations, depuis Adam Harishon jusqu'à Abraham, on les appelle aussi Avot Haolam. Par exemple, Noah, pour ne donner que l'exemple le plus connu. Donc il y avait connaissance que le monde a un créateur et que donc la créature doit se comporter d'une certaine manière pour authentifier son identité de créature. Il y a en particulier la notion très connue des sept mitzvot des Noirs, la morale noachide. Donc tout cela est connu, mais on n'avait pas encore la preuve de l'intervention du Créateur dans l'histoire humaine. Avec quoi commence la foi d'Israël? Que le Créateur est providence de l'histoire des hommes à travers l'histoire d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, pour toute la Bible, surtout pour la Torah, Dieu est appelé, Dieu Elokeinu Melech HaOlam, le roi du monde, le maître du monde, est appelé Dieu d'Israël. Et à travers le temps, on ne peut pas ne pas remarquer que la civilisation humaine a fini par reconnaître que le seul Dieu auquel on peut se référer dans cette catégorie qu'il s'est révélé, c'est le Dieu d'Israël. Il y a, d'un côté la chrétienté, de l'autre côté l'islam, chacun à sa manière et dans sa rivalité propre, mais ce sont les religions qui reconnaissent que Le Dieu qui se révèle, c'est le Dieu d'Israël. Alors que dans les autres traditions religieuses, je dis bien tradition, pas dire révélation justement, dans les autres philosophies religieuses, comme par exemple le bouddhisme, qui montre bien cela, plus que tout ce qui a précédé en Orient, je pense en particulier au brahmanisme, ou à l'hindouisme même, ces grandes, disons, religions entre guillemets, ce n'est pas des religions du type de la Bible, vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire, c'est l'homme qui recherche son Dieu. Et alors qu'avec la Bible, tout s'inverse radicalement, c'est Dieu qui s'adresse à l'homme. Et là, il y a une différence de nature radicale, et l'événement de la sortie d'Égypte est l'événement central de cette révolution, si vous voulez, dans l'histoire du monde. À partir de la sortie d'Égypte, on sait que le Créateur intervient dans l'histoire. Il y a eu, encore une fois, dans les générations qui ont précédé la sortie d'Égypte, cette intervention de Dieu comme président, comme, qu'est-ce que j'ai dit ? Président, je pense ? Lapsus. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire ?
Providence.
À quel président, je pense ? Sûrement un président qui a un vice, ça s'appelle un vice-président. Oui. Donc je reviens. Par exemple, Abraham, vous serez frappé. En relisant l'histoire d'Abraham, la formulation très très étroitement analogue de ce que Dieu dit à Abraham et de ce que Dieu va dire à Israël à la sortie d'Égypte. Je suis celui qui t'a fait sortir d'Oukasdi. Abraham a vécu à l'échelle individuelle l'événement central que Israël va vivre en tant que collectivité à la sortie d'Égypte, l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. Mais jusqu'à la sortie d'Égypte, c'est à l'échelle individuelle que des privilégiés, des initiés ont eu cette expérience. À partir de la sortie d'Égypte, c'est de manière irréversible je cherche un terme plus précis que connaissance, et puisque connaissance, dans le sens hébreu, oui, da'at, yedia, une expérience, que cela est non seulement vrai, mais que c'est vrai que c'est vrai. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Okay. On savait cela. Dieu existe, et donc il s'occupe de son monde. Il y a aussi des philosophies religieuses où on croit que Dieu existe mais ne s'occupe pas de son monde. Ça existe aussi dans beaucoup de traditions religieuses de l'Orient et de philosophies de l'Occident. Ce sont des visions démoniaques du monde. Mais, ça on savait. Les hommes de bonne foi, les hommes de foi savaient cela. Mais n'ont pas eu expérience que certains individus privilégiés, dans notre histoire c'est Abraham, à l'échelle individuelle, et à partir du moment de la sortie d'Égypte, c'est une donnée de la conscience humaine universelle irréversible. Alors, ceci, pour remettre en évidence de nouveau l'importance de la référence Zecher Yetziat Mitzrayim, en relation au souvenir de la sortie d'Égypte. C'est une sorte de refrain qui revient de manière tellement systématique, et qui vient en parallèle à Zecher le Maaseh Bereshit, en souvenir de la création du monde. C'est-à-dire toute cette période qui va de la création du monde, le premier homme, jusqu'à la sortie d'Égypte, va être close dans les événements que nous raconte le début de notre livre de Shemot, les événements qui commencent avec les corollairement, les persécutions et les 10 privilégiés qui ont pour aboutissement l'expérience de la libération d'Israël, de cette aliénation d'Égypte. Bien. Or, c'est la première fois que un tel événement arrive. Et ce que nous avons étudié la semaine dernière, nous avons un prolongement au début de la paracha. Bien, ça c'est mon lapsus qui travaille encore, qui se venge. Comme c'est la première fois que cela arrive, il peut y avoir pas seulement de l'impatience, mais de l'impatience et de l'incompréhension de la part d'Israël et de la part de Moïse. Pourquoi c'est si compliqué ? Pourquoi ça tarde tellement ? Pourquoi il a fallu toute cette progression de l'intensification de la persécution? Je cherche un mot pour traduire Shiaboud, de l'oppression et cette gradation de ce qui va se dévoiler à Israël et aux Égyptiens à travers les dix plaies, qu'il y a une volonté consciente qui intervient. C'est cette découverte qui va se faire progressivement à travers les dix plaies. Parce que s'il n'y avait pas cette découverte à faire, ce qui va nous être dit au début de la paracha, alors la dixième plaie aurait suffi. La dixième plaie qui a été tellement massive qu'elle a contraint le pharaon à la panique et à supplier, non plus que supplier, à obliger Israël de quitter l'Égypte, eh bien elle aurait suffi. Donc c'est qu'il y a une stratégie de révélation, de dévoilement qui se passe à travers ces dix plaies, je le dirai très très succinctement. Les Égyptiens d'un côté, il ne faut pas oublier, et aussi les Hébreux, découvrent qu'une volonté qui sait ce qu'elle veut, une volonté libre, intervient. Et essentiellement dans le fait que les plaies frappent les Égyptiens et pas les Hébreux, alors que les Hébreux étaient mêlés aux Égyptiens. Et au point culminant, des familles égyptiennes sont frappées par la mort des premiers-nés, et que le Mashhit, ce qui intervient pour agir dans ces plaies, choisit entre le premier-né et les autres. C'est un grand principe de la Torah. La providence qui intervient sait ce qu'elle fait, jusque dans tous les détails. Alors que chez les philosophes, quelles que soient les philosophies religieuses, elles, Dieu sait qu'elles en existent, surtout en Orient, tout est de manière globale, générale, approximative. On n'ose jamais admettre que le détail est surveillé. Rassurez-vous, surveiller, c'est les mêmes mots que veiller sur. Mais on est veillé sur, c'est-à-dire surveillé, juste dans les détails. Et je crois que les hommes même les plus, pas les plus, non, les hommes pieux ne se rendent pas compte qu'il faut prendre ça au sérieux. Si c'est vrai qu'il y a une providence, alors, tous les détails, on en tient compte. Quel est le verset ? À quel verset je pense ? Je sais que je vous ai déjà donné des cauchemars, mais rassurez-vous, surveiller, ça veut dire veiller sur. Le dernier verset de l'Ecclésiaste. Tout est passé en jugement. Sauf d'abord, à Konishma et à l'Okimera, avec une autre chemo, qui s'écolade. Et chez Akol, il y a vie de Mishpat. Alors, on le sait une fois, ensuite on ferme les yeux, parce qu'il faut vivre, alors vivre avec une telle consigne, c'est parfois difficile. Ça, il arrive que ça rende des gens malades. Ça s'appelle la maniaquerie, la scrupulite. Mais il faut savoir que c'est de ça qu'il s'agit. Que ce qui se dévoile à travers les dix plaies d'Égypte, c'est que la providence, c'est quelque chose de sérieux. Et c'est surtout chez le prophète Isaïe que le prophète va parler de cela. Celui qui a fait l'oreille n'entendrait-il pas ? Et on pourrait ajouter, ça c'est Isaïe, celui qui a fait les yeux ne voit-il pas ? C'est lui, etc. Je referme cette parenthèse terrifiante et on arrive précisément à ce sujet. Je voudrais vous citer un enseignement du rabbi de Kosk. Vous avez entendu parler du rabbi de Kosk ? Et je vous conseille d'ailleurs, si ça vous intéresse, je voudrais vous intéresser, quand vous préparez la paracha, procurez ce livre qui s'appelle Mariana shel Torah. Vous savez, à propos de chaque verset que l'auteur de ce livre a jugé important, il cite tel ou tel enseignement très particulier, très pointu parfois, surtout des chassidim, et il y a là des thèmes de réflexion extrêmement importants. C'est toujours trois lignes et c'est pas difficile à les comprendre. On prend le verset d'abord. Et je vous indiquerai tout de suite quelle est la question de lecture sur laquelle le rabbi de Kotz va intervenir. Alors voilà, à un certain moment de cette, je dirais plus qu'impatience, je dirais même perte de patience de Moïse, Dieu va intervenir pour lui expliquer pourquoi ça tarde. Parce qu'il a fallu tous ces degrés du dévoilement jusqu'à ce qu'en fin de compte, à la plaie de la dixième plaie, de la mort des premiers-nés, l'Égypte découvre cela. Il y a une providence. C'est clair, je suis là. Mais, vous le verrez, et j'y insisterai, il fallait qu'Israël aussi soit convaincu de cela. Ça va nous être dit dès les premiers versets. Alors, le premier verset de Beau. Vayom et Hachem et Moshe, vous y êtes au chapitre 10. Et Dieu dit à Moïse, Beau et le Paro, va chez le Pharaon. Et là, il y a une question de langue. Normalement, on s'attendrait l'Ech et le Pharaon. C'est ça que va expliquer le Rabbi, que je cite tout à l'heure. quoi que ça, ça veut dire en hébreu. Bon, ça peut vouloir dire viens et va. On est plus habitué au sens de viens, mais ça veut dire aussi va. Qui a mis ma tête libre et terravada, car c'est moi qui ai appesanti le cœur, son cœur au pharaon et le cœur de ses serviteurs, les mahanchiti au totaï et les wikirbo, afin que je puisse placer ces signes-là, les miens de signes, en son sein. Et il faut que quelque chose soit signalé dans sa situation, et donc patience, c'est ce que dit Moïse. Il y a aussi un commentaire très particulier qui dit que Moïse aurait pensé peut-être qu'il n'y avait pas d'espoir si l'entêtement vient du pharaon lui-même. Alors Dieu dit à Moïse, non, non, c'est moi qui fais ça. Soyez coup, cet obstacle. C'est moi qui endurcis le cœur du pharaon. Donc, il y a des chances qu'un jour le pharaon vous laisse partir. Alors je reviens à ce que je viens de dire. Pourquoi ça aurait inquiété Moïse si c'est le pharaon de lui-même qui ne veut pas? Je pose une question simple. Vous avez compris, hein, je veux dire, je vous ai compris. J'en profite pour dire une bracha. Enfin, je l'ai dit toutes les demi-heures, mais la demi-heure n'est pas passée. Rappelez-vous ceux qui ont étudié les années précédentes cette question, parce qu'il est nécessaire que le pharaon de lui-même les laisse partir. Si ce n'est pas de par sa volonté libre, il les laisse partir, c'est pas juste. Pourquoi? Il y a deux raisons que vous avez apprises. Bon, pour pas
quelqu'un. Est-ce que le peuple appartient au pharaon quand il l'a pas libéré?
Ah, non, non, le début est exact. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? En tant que
le peuple appartient au pharaon tant que le pharaon n'a pas donné son accord.
Mais ça, c'est la question, c'est pas la réponse. C'est ma question. Et pourquoi le peuple appartient au pharaon tant qu'il n'a pas donné le OK? C'est ça ma question. Ken? Ah, mais non, le chômeur.
Il ne sait pas que Dieu existe encore, que Dieu d'Israël existe.
Ça, c'est, on peut répondre déjà comme ça, c'est ce qu'on vient de voir, parce que Dieu doit réaliser cela, que l'Égypte, et donc le pharaon surtout, découvre cela. Exact. Mais ce n'était pas ma question là. Là, ma question, je la reformule, c'est que Dieu console, c'est pas le mot, explique à Moïse que c'est pas le pharaon qui refuse de lui-même, c'est Dieu qui empêche le pharaon de les laisser partir, justement jusqu'à ce qu'il découvre ce qu'il faut découvrir. Mais ma question est pourquoi Moïse serait inquiété si c'était le pharaon, lui, qui décide de ne pas les laisser partir? Le début de ce que tu as dit est exact. Parce que il y a des clauses qui doivent jouer. Il faut que ce soit le pharaon de sa décision libre qui les laisse partir. Alors attendez, 2 minutes que ça se calme. Je crois que j'ai un obstacle pharaonique. Il y a sûrement un parfum dans l'air qui me... Alors ouvrez un tout petit peu. Que ça se détende. Le nom là, là derrière, toi. Quel... Bon, ça va, là-bas. Quel tir, oui. Oui, c'est ça, oui. Voilà, ça va. L'expérience montre que ça marche. Bien, le problème de la galoute. Il y a un contrat de travail entre Israël et l'Égypte. Quel est ce contrat de travail? Quelle est la fonction de la galoute dans la relation entre Israël et les nations? C'est un sujet pour lui-même. Or, dans ce cas particulier, nous avons le modèle, la sortie d'Égypte, et une date fixée. C'était 400 ans. Or, il ne se passe que 210 ans lorsque ces événements commencent à se déclencher. Ça, on apprend d'autre part, et une accélération de tout. Et si les Hébreux attendaient encore 190 ans, que ça arrive à 400 ans, ils auraient disparu. C'est clair. Ils auraient disparu pour deux raisons. Les deux dangers de l'exil, le danger de l'assimilation, c'est le danger intérieur, et le danger de la persécution, et le danger extérieur. Effectivement, on s'aperçoit qu'à la fin des temps d'exil, ça s'accélère. et l'assimilation et la persécution. Si on tarde trop, on disparaît. Et donc, pour pas qu'Israël disparaisse, Dieu décide de promouvoir l'intervention de Moïse 190 ans avant la date fixée. Mais les Égyptiens et le Pharaon, qui sont des personnages de la Torah, savent que c'était 400 ans. Alors, à bon droit, le Pharaon dit, mais c'est pas le temps. Comme disent d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de juifs. Pharaon dit, mais ce n'est pas le temps. Il faut que Moïse fasse sa preuve que c'est le temps. Et alors, il y a un obstacle. Alors, la première réponse, c'est ça, ce que j'appelle le contrat de travail de l'exil. Il faut que, si le contrat est rompu, mais il faut que le patron donne son accord. Est-ce que c'est clair? Et puis, deuxièmement, il y avait une clause au fait que le pharaon laisse partir les Hébreux, et ça s'ajoute à travers la gradation des plaies, jusqu'à la dernière. La clause, c'est le tnaï en hébreu, c'est laisse sortir mon peuple, ou bien je te frappe de telle plaie. Or, l'Égypte a été frappée de toutes les plaies, donc le peuple appartient encore au pharaon. Et ça, cette panique-là d'Israël, on la verra au passage de la mer Rouge. C'est au passage de la mer Rouge que ça vous étudiez là pour vous chez Michel Pessah, Rachel Bechalar, qu'il y a un étonnement très grand. Le peuple a eu la preuve. Vous voyez que ça marche, c'est bizarre. Que j'ai trop parlé. Le peuple a eu la preuve que Dieu intervient pour lui. Pourquoi il a eu peur au passage de la mer Rouge? Parce que le peuple savait qu'il fallait qu'il ait un mérite supplémentaire, puisque le bon droit était pour les Égyptiens. Ça, on verra, si vous voulez, plus en détail dans le texte, dans la prochaine Béchelard. Est-ce que c'est clair? Cette panique qu'il y a, que Dieu même dit à Moïse, c'est pas le temps de la prière, parle au peuple et qu'il avance. Et si le peuple avance dans la mer, ça veut dire qu'il a un mérite de foi supplémentaire qui lui permettrait à Dieu de faire pencher la balance pour Israël. Et c'est ce qui s'est passé. Comment s'appelle l'hébreu qui est rentré dans la mer? Nachshon ben Aminadab. Comment il s'appelle? Nachshon ben Aminadab. C'est le courage du peuple qui rentre dans la mer. Aminadab, ça veut dire celui qui s'est dévoué pour son peuple. C'est clair? Et alors, ça c'est la première. Non, j'ai dit les deux déjà.
Oui,
c'est oui. Donc, c'est ce que nous voyons dans ce commentaire précis. Il faut que Dieu explique à Moïse, c'est moi qui empêche le pharaon. Donc il y a un espoir. Quand je finis de l'empêcher, il va vous laisser. Mais est-ce que c'est clair? L'inquiétude de Moïse était que si c'est le pharaon qui de lui-même s'est endurci, alors il n'y a pas d'espoir. Vous voyez à quel point c'est fin comme enseignant. Qu'avaient les paroles, toutes les blagues qu'il y a dans les yeshivot, qu'à la place du cœur, pharaon avait le foie. Qui qu'avait les paroles? Non, mais il y a beaucoup de commentaires qui s'y réfèrent. Vous savez, dans les grands hôpitaux, les traitements du foie et du cœur, ça va ensemble. Bien. Alors voilà ce que le rabbi de Kos maintenant enseigne à propos du verbe « bo el paro ». Normalement, il faudrait s'attendre à « l'er el paro ». Alors là, il y a un enseignement extrêmement important qui va apparaître. Je vais d'abord traduire, et je pense que ça suffira, sinon j'expliquerai un peu plus ce qu'il dit. L'homme est mort, l'air est le pharaon. Il n'est pas dit va, l'air, chez le pharaon, qui est une mot, mais vient. Encore une fois, je vous rappelle qu'en hébreu grammatical, la beau, ça veut dire aussi aller. Hein. C'est un peu littéraire, mais c'est employé. Michou, chez l'olchim, mais taché mi par. Parce qu'on ne quitte pas Dieu quand Dieu se révèle. Dieu est en train de se révéler à Moïse, il va lui dire, va chez le pharaon, quitte-moi pour aller chez ce égyptien. Je ne sais pas si vous voyez tout de suite ce qui apparaît là. Hein. Dieu ne peut pas dire à Moïse, va-t'en de chez moi et va chez le pharaon. Alors, ce n'est pas fini. Hein. Shekel, melo, kol ha'aretz kevod. Puisque le verset dit que la terre entière est pleine de sa gloire, la gloire de Dieu. Par conséquent, pas question qu'il soit quelque part et pas ailleurs. Alors c'est là que l'enseignement est important. Vaye foyoter abitul bo, chez Pirocho, bo iti, qui est un ni, c'est un autre verset, c'est un mot de vient avec moi dans le même sens. Ça veut dire que Dieu est aussi chez le Pharaon. Ça veut dire que Dieu appelle Moïse de chez le Pharaon et dit à Moïse, viens chez le Pharaon. Est-ce que c'est clair? Bien. Ça veut dire, étant donné qu'il y a une universalité de la présence de Dieu dans le monde, alors il y a Dieu prisonnier du Pharaon. Et c'est Dieu prisonnier du Pharaon qui demande à Moïse de venir le délivrer. Ça va jusque-là. Bien. Je veux dire à quoi ça se rattache dans l'enseignement des chassidim. C'est à propos de « Mima Hamakim Kiratira Hashem », le psaume qu'on lit dans les 10 jours de pénitence. Bien. Et que les chrétiens appellent des profondices, pour traduire Mima Hamakim. Des profondeurs, je t'appelle. Et ça a pris un petit peu un autre sens, des profondices. Ça a pris un sens cavernal, caverneux, je sais pas quoi. Alors quel est le pshat du verset? C'est que celui qui prie dans ce psaume est dans la profondeur. Et des profondeurs où il se trouve, il appelle Dieu. Les chassidim lisent autrement. Celui qui prie dit « Mima amakim kiratira Hashem » Je t'appelle toi qui es dans les profondeurs pour te faire sortir des miens. Ça y est, c'est clair? Vous voyez, au bord de quoi nous sommes, hein? Toutes ces expressions qui vous sont très familières. « Lolano Hashem, lolano kileshitra ben karo » N'agis pas pour nous, mais agis pour toi. « Lishuatecha kiviti Hashem » J'espère en ton salut. Ça ne veut pas simplement dire au salut que tu me donneras. Ça veut dire à ton salut à toi. Dire pour toi et pas pour moi. Oui, mais je trouve ça va. Okay. Alors nous avons ici un exemple. Il y a des étincelles de sainteté dans l'Égypte, qui est la civilisation du temps, qu'il faut délivrer. Il y a une parole, on dit en français délivrer un message. Il y a un message qu'il faut délivrer parce qu'il est prisonnier. Alors Israël est chargé de délivrer ce message. Et alors ce message appelle Israël pour lui demander de le délivrer. Et je vous rattache ça à un enseignement de la Gala de Pessah, qui est que vous avez cette Mishnah qui dit que Israël est descendu en Égypte, Anus Alpia Dibour. Anus Alpia Dibour, ça veut dire obligé par la parole. Quelle parole? Le pshat, c'est la parole que Dieu a dit à Abraham. Ils seront esclaves en un pays qui ne leur appartient pas. Il s'avérera que c'est l'Égypte, mais je les délivrerai. Alors Dieu a promis que Israël sera révéler, indiquer que les circonstances ayant joué, Israël sera exilé et délivré. Il faut qu'Israël ait l'expérience de cela. Galut Geoula pour pouvoir recevoir la Torah. Parce que l'objet de la Torah, c'est l'achèvement de la libération d'Israël de l'Égypte. L'application de la Torah, c'est la réalisation de ce qui se passe à la sortie d'Égypte jusqu'au niveau messianique. Vous apprendrez ça dans la paracha de Mishpatim, que l'esclave hébreu doit être libéré à la 7e année. On l'amène devant la mezouza et lui perce l'oreille qui a entendu « Je t'ai délivré » et lui préfère être esclave. Il faut achever la Torah de la sortie d'Égypte. Et alors je reviens donc à ce passage de la Gala de Pessah. Le pshat est très clair, puisque Dieu a déjà prévu à Abraham que dans les circonstances données, sa descendance sera esclave en Égypte et sera délivrée, alors il faut que ça se passe. Et Jacob, nous dit le Midrash, aurait été descendu, enchaîné en Égypte, s'il n'avait pas voulu descendre. Et c'est pour la gloire de Jacob que Joseph a été envoyé à l'avance pour le recevoir comme un roi. Mais dans tous les cas, il fallait descendre en Égypte pour délivrer ces étincelles de sainteté. Quel dibour? Ce dibour, cette parole, qui doit être révélée par Moïse et qui n'arrive pas à être révélée par Moïse. Vous avez dû remarquer cela. Que tant qu'Israël est asservi en Égypte, Moïse ne peut pas parler. Ce grand paradoxe, que c'est un homme qui ne peut pas parler, que Dieu confie d'être le porte-parole, c'est énorme. Hein? Qu'est-ce que Dieu se choisit comme porte-parole? Quelqu'un qui ne peut pas parler. Vous avez remarqué ça? Okay? C'est pas du tout, c'était pire. Alors, chemin. Alors la réponse est que le message n'arrive pas à être délivré, parce que la libération de cette sainteté n'est pas faite. Mais dès que la sortie d'Égypte est faite, alors le verset éclate. Parle aux enfants d'Israël, parle aux enfants. Et qui parle? Oui. Vous voyez ce qui se passe là. Bon, il y a d'autres dimensions de l'explication pourquoi Moïse était empêché de parler. Je vous dirai la plus profonde, à mon sens, ça vient de la Kabbalah. C'est pas parce que il ne savait pas quoi dire. C'est parce qu'il avait trop à dire. Alors il ne pouvait pas dire. Je ne sais pas si c'est clair. Il est le porte-parole de la vérité absolue. Comment dire à ceux qui ne la possèdent pas? Alors il est empêché de parler parce qu'il a trop à dire. D'accord? Il y a une autre explication, c'est très importante. Moïse n'a pas encore fini de décider Israël et pas l'Égypte. Il est encore dans cette mixité de diaspora. Et nous savons que lorsqu'on a deux mères, une et une mère adoptive, en général on bégaye. Je ne sais pas si les pédagogues savent ça, mais en tout cas ils le savent. Quand on est aliéné à deux cultures, eh bien, ça bégaye. Vous avez compris le mot. Je crois que c'est Malraux qui disait que celui qui a deux cultures perd son âme. Ça ne vous dit rien, ça? Malraux, vous connaissez? Alors, j'ai entendu ça une fois, il y a longtemps, quand il était vivant. C'est quelque chose d'assez profond. Et effectivement, c'est le drame de l'assimilation. Je crois que là, ça désigne, Malraux ne pensait pas aux Juifs. Je crois qu'il pensait au tiers monde, mais quoi qu'il en soit, ça désigne le drame des Juifs de la double appartenance. Il y a une difficulté supplémentaire de l'existence qui vient de ce qu'on est, inséré. La consigne que je donne aux Olim Khadashim qui viennent commencer à étudier en Israël, c'est d'essayer de réaliser quelque chose qui est difficile à réaliser. Il faut se désintoxiquer de la culture française et ne pas l'oublier. Je ne sais pas comment dire ça, parce que l'oublier, c'est dommage. C'est une très grande culture. C'est pas la nôtre, mais c'est une très très grande culture. Mais il faut vraiment s'en désintoxiquer, parce que c'est une culture gréco-romaine d'imprégnation spirituelle chrétienne. Il n'y a pas plus différent que l'hébreu et que la culture hébraïque. D'autant plus que ça semble se référer au même livre et au même mot. Vous savez, il y a là le drame de l'approximation. Vous avez deux termes en français qui peuvent nous aider à comprendre ce dont il s'agit ici. La proximité et l'approximation. Voilà, le drame de ce qui est proche et qui n'est que proche, c'est que c'est très loin. Je ne sais pas si c'est clair. Mais au fond, c'est ce qui est le plus proche, sans être vraiment, qui est le plus dangereux. Quelqu'un qui est très loin, ce n'est pas dangereux. Mais quelqu'un qui est proche, mais pas exact, c'est très dangereux. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à vous expliquer ça. Okay. Et alors, c'est ce qui se passe avec la culture occidentale pour Israël. Les Juifs ont été fascinés par cette culture. Et en particulier, je vous citerai un grand philosophe allemand qui fascine les Juifs, au point qu'il est très difficile d'arriver à déceler la trace de ce philosophe et ce qu'il y a de spécifiquement juif chez les philosophes juifs contemporains. Il s'agit de Kant. Kant est vraiment le philosophe occidental qui a formulé la plus grande approximation du judaïsme. Et les Juifs ont été fascinés par la place que Kant donne à la notion de devoir, qui ressemble beaucoup, mais ça n'a rien à voir, avec la mitzvah. Et alors, il faut dépister Kant chez les philosophes juifs contemporains. Je ne vais pas donner de nom, mais chez tous. Okay. Et vous savez que chacun a son Kant à soi. Et alors donc, ça fait autant de thèses de doctorat qu'on peut faire sur... Il faut une quantité. Donc, je dis cela parce que je l'ai expérimenté par moi-même quand j'étais en Europe. Il y a une imprégnation biblique, mais à la manière chrétienne. Et alors, le véhicule est tellement loin du véhicule hébraïque que ça a l'air d'être proche, mais ce n'est qu'approximatif. Je vous donne un exemple que j'ai cité une fois. Pendant des 2000 ans, les chrétiens étaient persuadés que le mot de « Amen » était un mot latin. Alors, c'était même pas un mot grec. Mais je ne sais pas si vous savez le nombre de consciences chrétiennes qui ont dit « Amen » avec piété romaine. Ou bien des mots comme « Alléluia »,« Hosanna », Hosanna, ça c'est en français. Et des choses comme ça. Alors imagine le choc quand il découvre que c'est de l'hébreu. Bon, heureusement, c'est pas du yiddish, mais si ça avait été du yiddish, en tout cas, pour revenir au sujet, pourquoi j'ai parlé de ça? Oui, mais pourquoi j'ai parlé de ça?
Moshé.
Et alors, dès que la libération est faite, alors Moïse part. La parole est délivrée. Le message est délivré. C'est indiqué par, dans la Kabbalah, mais c'est une chose simple. Le mot de paro est lu P-R-A, les mêmes lettres. P-E, Vesh-Aïm, la bouche mauvaise, P-R-A. Et le mot de Pessah est lu P-Sah, la bouche pure. C'est-à-dire que Pessah a permis au message qui est enfoui dans la gorge du pharaon de pouvoir sortir de manière pure. En fait, ça annonce à Pierre Dibourg. Oui, la parole qui est chez le pharaon dit à Moïse, Bo el pharaon qui est nirbati. Ça y est, c'est clair? Oui, ce qui se passe. Alors là, il y a un enseignement important de l'universalité de la providence et surtout ce fait-là, je raccourcis un peu pour ne pas perdre trop de temps. Le Talmud dit ceci, vous allez bien le comprendre, j'espère. Et après, je vous rappellerai quand je l'ai cité une année, une expérience que j'ai eue à ce sujet. C'est que si tu vois un idolâtre adorer son idole, ne te moque pas de lui, parce que c'est le vrai Dieu qu'il croit adorer, mais détruit l'idole. Et ça, c'est comme ça que l'histoire d'Israël a commencé avec Abraham. C'est-à-dire, un de mes maîtres m'a expliqué ça d'après ce problème. C'était... Lequel? J'hésite entre deux. C'est le Rav Schneerson, avec qui j'ai étudié le Tania. Après la guerre à Paris, c'était le cousin du rabbi actuel de Lubavitch. J'ai dit actuel, parce qu'ils n'ont pas un remplaçant. Alors, il dit ceci. De quoi je parlais? Ça m'échappe. De quoi je parlais juste avant? Ah oui, c'est ça. Que dans l'idole, il y a une étincelle de sainteté qui a été arrachée à l'unité divine. Et c'est pourquoi les mythes sont tellement vivants tant qu'ils sont vivants. Qu'est-ce qui donne la force au mythe? C'est une étincelle d'idéal vrai, mais arrachée à l'unité des valeurs. Et ça devient défiguré, ça devient une idole. Mais à l'origine, c'était dans l'unité des valeurs. Est-ce que c'est clair, ça? C'est ce pluriel duquel on détache, le pluriel des idéaux, duquel on détache, et on privilégie un idéal sur les autres, alors il devient une idole. D'ailleurs, étymologiquement, c'est le même mot. L'idéal et l'idole, l'origine latine est la même. Il faut se méfier de ces, je ne sais pas comment vous dire, de ces idéaux privilégiés qui deviennent des idolâtries. Mettre en évidence la grâce par rapport à la justice, ou la justice par rapport à la grâce, c'est ça le drame de la civilisation humaine. Toutes les civilisations... qui je suis en train de calomnier. Toutes les civilisations qui se sont basées sur la charité et ont, pas méprisé, mis de côté la justice, se sont effondrées. Toutes les civilisations qui ont privilégié la justice et ont mis de côté la charité, se sont effondrées. Il faut l'unité des valeurs. Alors c'est ça l'idole. Bien. Alors il faut énormément de délicatesse et de pudeur pour parler de ça, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a comme étincelle de sainteté derrière la défigure de ces mythes et de ces idoles païennes? Alors il vaut mieux ne pas s'en occuper et laisser ça aux spécialistes. Je pense que c'est clair. Je vous en cite un autre enseignement qui vous montre à quel point ça a préoccupé les rabbins. C'est lorsqu'il y a une mitzvah dans la paracha de Kitetsé, lorsque Israël devait aller en guerre, et que si un soldat voyait une femme belle, c'est Eshet Yefat Tohar, dans les prisonniers, il avait le droit. J'ai pas le droit, moi, de parler de ça schématiquement, mais enfin, j'essaie de dire l'essentiel. il avait droit à certaines conditions de la prendre pour femme. En particulier, elle devait prendre le deuil pendant un mois de sa famille d'origine. Et après seulement, si ce soldat voulait encore qu'elle soit sa femme, elle lui autorisait, mais en général, après l'avoir vue pendant un mois dans le deuil, eh bien, l'apparence de beauté avait disparu. Et donc, les tendances, les passions sur le front, imaginez ce que ça pouvait être, comment elle s'appelle, la Madelon. Alors, en général, il ne la voulait plus. Mais s'il la voulait encore, ça voulait dire qu'elle avait une beauté intérieure qui était cachée par la beauté extérieure et que c'était caché. Bon, c'est un sujet qu'il faut étudier en approfondissant. Alors, un des enseignements, c'est « Veracita et Tsiponera ». Elle se fera les ongles. Et il y a deux commentaires. Soit elle laissera pousser ses ongles, soit elle coupera ses ongles. Parce qu'il y a des civilisations où la beauté, c'est des ongles longs, il y a des civilisations où la beauté, c'est des ongles courts. Alors donc, elle fera le contraire de la règle de beauté de la civilisation en question pour s'en les dire. Et alors, un des commentaires dit, quand on a un enseignement de sagesse qui vient d'égoïme, il faut lui faire les ongles. Alors on lui fait les ongles et après on peut s'en occuper. Il faut le cachériser. On le passe à l'eau et au sel pour pouvoir l'intégrer. Vous voyez la ramification des dimensions de commentaires au sujet de ces notions-là. On est parti, finalement, et j'y reviens, d'une question apparemment de lecture. Il y a écrit « Bo el paro » et on s'attendrait à ce qu'il y ait « l'air el paro ». Vous voyez ce qu'il y a derrière les commentaires des grands rabbins. Donc, voilà pour ce premier verset. Je vais vous demander d'en prendre un deuxième, c'est dans le chapitre 12. À la fin, les y plaît, quelque chose que le pharaon dit à Israël et qui est assez difficile à comprendre. Chapitre 12, vous prenez au verset 32. Vous devez être la même bête. Voilà, quand en fin de compte, le pharaon c'est bien un bête. Dans une minute. Oui, un bête. Quand en fin de compte, le pharaon va donner le feu vert à Israël, et c'est le récit dans la Torah, dans ce chapitre 12 qui suit les premières mitzvot concernant le calendrier et le sacrifice de Pessah. Alors il dit ceci, en fin de compte, d'abord il y a eu toute une discussion qui a précédé entre le pharaon et Moïse. Moïse a pris comme stratégie, suivez bien cela parce que c'est important pour comprendre les stratégies du peuple juif à travers l'histoire des civilisations. Moïse réclame le droit au culte particulier des Hébreux. Il réclame au pharaon le droit d'aller dans le désert rendre un culte au Dieu d'Israël. Et alors le pharaon dit, eh bien bon, alors uniquement les hommes, on sépare les femmes des hommes. Il était arrêté ce pharaon. Alors Moïse dit non, les hommes et les femmes et les enfants. Et après le pharaon dit, bon d'accord, prenez uniquement les bêtes qu'il vous faut pour les sacrifices et laissez vos troupeaux ici. Alors il dit, non seulement on prend tous nos troupeaux, mais toi-même tu vas nous ajouter encore des troupeaux. Donc, alors en fin de compte, quand le pharaon se décide